Chapitre 47. Cependant, Catherine, qui n'avait point quitté Borgerhout, ne cessait de vaquer dans les environs, disant toujours « Hans, que mon âme, ils ont fait du feu sur ma tête, fais-y un trou afin que mon âme sorte. Là, celle y frappe toujours et à chaque coup ses cuisantes douleurs. » Enel la soignait en sa folie, et près d'elle songeait Dolante à son ami Eulenspiegel. Et Adam Claes liait ses coterets, vendait son charbon, et maintes fois entrait en mélancolie, songeant qu'Eulenspiegel le banni ne pourrait de longtemps rentrer en la chaumine. Seutkin se tenait tous les jours à la fenêtre, regardant si elle ne verrait point venir son fils Eulenspiegel. Celui-ci, étant arrivé aux environs de Cologne, songea qu'il avait présentement le goût de cultiver les jardins. Il alla s'offrir en qualité de garçon à Jean de Zürzmaul, lequel était capitaine de Landsknecht, avait failli être pendu faute de rançon et avait en grande horreur le chanvre qui, en langage flamand, se disait alors « Kennip ». Un jour, Jean de Zürzmaul, voulant montrer à Eulenspiegel la besogne à faire, le mena au fond de son clos, et là ils virent un journal de terre voisin du clos, tout planté de verre kennip. Jean de Zürzmaul dit à Eulenspiegel, « Chaque fois que tu verras de cette laide plante, il la faut vilipender honteusement, car c'est elle qui sert aux roues et aux potences. » « Je la vilipenderai, » répondit Eulenspiegel. Jean de Zürzmaul étant un jour à table avec quelques amis de gueule, le cuisinier dit à Eulenspiegel, « Va dans la cave et prends-y du zelnip qui est de la moutarde. » Eulenspiegel, entendant malicieusement « kennip » au lieu de « zelnip », vilipenda honteusement le pot de zelnip dans la cave et revint le porter sur la table non sans rire. « Pourquoi ris-tu ? » demanda Jean de Zürzmaul. « Penses-tu que nos naseaux soient des reins ? Mange de cette zennip, puisque toi-même tu l'as préparée. »« J'aime mieux des grillades à la cannelle, » répondit Eulenspiegel. Jean de Zürzmaul se leva pour le battre. « Il y a, dit-il, du vilipendement dans ce pot de moutarde. » Boès, répondit Eulenspiegel, ne vous souvient-il plus du jour où j'allais vous suivant au bout de votre clos? Et là, vous me dites, en me montant le zelnip, partout tu verras cette plante, vilipende-la honteusement, car c'est elle qui sert aux roues et aux potences. Je la vilipendais, Boès. Je la vilipendais avec grand affront. N'allez pas me meurtrir pour mon obéissance. Mais j'ai dit kennip et non zennip, s'écria furieusement Jean de Zürzmaul. Bah, sinon vous avez dit zennip et non kennip, repartit Eulenspiegel. Ils se disputèrent ainsi pendant longtemps, Eulenspiegel parlant humblement. Jean de Zürzmaul criant comme un aigle, et mêlant ensemble zennik, kennik, kennik, zemnik, zemnik, kennik, zennik, comme un écheveau de toit source. Et les convives riaient comme des diables, mangeant des côtelettes de dominicains et des rognons d'inquisiteurs. Mais Eulenspiegel dut quitter Jean de Zürzmaul. Nell était toujours bien marie pour elle-même et sa mère affolée. Eulenspiegel se loua un tailleur qui lui dit « Lorsque tu coudras, coud serré afin que je n'y voie rien. » Eulenspiegel alla s'asseoir sous un tonneau et là commença à coudre. « Non, ce n'est pas cela que je veux dire, » cria le tailleur. Je me sers en un tonneau, comment voulez-vous que l'on y voie ? » répondit Eulenspiegel. « Viens, dit le tailleur, rassieds-toi là, sur la table, et pique tes poings serrés l'un près de l'autre, et fait la bille comme ce loup. Loup était le nom d'un justaucorps de paysan. Eulenspiegel prit le justaucorps, le tailla en pièces et le cousit de façon à lui donner la ressemblante figure d'un loup. Le tailleur, voyant cela, s'écria : « Mais qu'as-tu fait de par le diable ? » ?»« Un loup, » répondit Eulenspiegel. « Méchant gosseur, » repartit le tailleur, « je t'avais dit un loup, c'est vrai, mais tu sais que le loup se dit d'un justaucorps de paysan. » Quelque temps après, il lui dit : « Garçon, jette les manches à ce pourpoint avant que tu n'ailles te mettre au lit. » Jeter, faufilé en langue de tailleur. Eulenspiegel accrocha le pourpoint à un clou et passa toute la nuit à y jeter les manches. Le tailleur vint au bruit. « Me vaut rien, lui dit-il, quel nouveau et méchant tour me joues-tu là ?»« Mais est-ce là un méchant tour ?» répondit Eulenspiegel. « Voyez ces manches, je les ai jetées toute la nuit contre le pourpoint, et ils n'y tiennent pas encore. » « Ah, cela va de soi, dit le tailleur, c'est pourquoi je te jette à la rue. Vois si tu tiendras davantage. » Cependant, Nell, quand Kathleen était chez quelques bons voisins bien gardés, Nell s'en allait loin, bien loin, toute seule, jusqu'à Anvers, le long de l'Escaut ou ailleurs, cherchant toujours, et sur les barques du fleuve et sur les chemins poudreux, si elle ne verrait point son ami Eulenspiegel. Se trouvant à Hambourg un jour de foire, il vit des marchands partout et parmi eux quelques vieux juifs vivant d'usure et de vieux clous. Eulenspiegel, voulant aussi être marchand, vit gisant à terre quelques crottins de cheval et les porta à son logis qui était en redan du mur du rempart. Là, il les fit sécher, puis il acheta de la soie rouge et verte, en fit des sachets, y mit les crottins de cheval et les ferma d'un ruban, comme s'ils eussent été pleins de musc. Puis il se fit avec quelques planches un bac en bois, le suspendit à son cou au milieu de vieilles cordes, et vint au marché, portant devant lui le bac rempli de sachets. Le soir, pour les éclairer, il allumait au milieu une petite chandelle. Quand on venait lui demander ce qu'il vendait, il répondait mystérieusement : « Je vous le dirai, mais ne parlons pas trop haut. » « Qu'est-ce donc ? » demandaient les chalands. « Ce sont, répondait Eulenspiegel, des graines prophétiques venues directement d'Arabie en Flandre et préparé avec grand art par maître Abdul Medil de la race du grand Mohammed. » Certains chalands s'entredisaient : « Bon, c'est un Turc. » Mais les autres : « Non, c'est un pèlerin venant de Flandre, disait-il. Ne l'entendez-vous pas à son parler ? » Et les loqueteux, marmiteux et guenillards venaient à Eulenspiegel et lui disaient : « « Donne-nous de ces graines prophétiques. » « Quand vous aurez des florins pour en acheter, » répondait Eulenspiegel. Et les pauvres marmiteux, loqueteux et guenillards, de s'en aller penauds en disant : « Oh, il n'est de joie en ce monde que pour les riches. » Le bruit de ces graines à vendre se répandit bientôt sur le marché. Les bourgeois se disaient l'un à l'autre : « Il y a là un flamand qui tient des graines prophétiques bénies à Jérusalem sur le tombeau de notre Seigneur Jésus, mais on dit qu'il ne veut pas les vendre. » Et tous les bourgeois de venir à Eulenspiegel et de lui demander de ces graines. Mais Eulenspiegel, qui voulait de gros bénéfices, répondait qu'il n'était pas assez mûr. Et il avait l'œil sur deux riches juifs qui vaquaient par le marché. Je voudrais bien savoir, disait l'un des bourgeois, ce que deviendra mon vaisseau qui est sur la mer. Mais il ira jusqu'au ciel si les vagues sont assez hautes, répondait Eulenspiegel. Un autre disait, lui montrant sa fillette mignonne, toute rougissante, celle-ci tournera bien, sans doute. Oh, tout tourne à ce que la nature veut, répondait Eulenspiegel, car il venait de voir la fillette donner une clé à un jeune gars qui, tout bouffinaise, dit à Eulenspiegel, Monsieur du Marchand, baillez-moi un de vos sacs prophétiques, afin que j'y voie si je dormirai seul cette nuit. Il est écrit, répondait Eulenspiegel, que celui qui sème le seigle de séduction récolte l'ergot de cocuage. Oh, le jeune gars se fâcha. À qui en as-tu, dit-il. Les graines disent, répondit Eulenspiegel, qu'elle te souhaite un heureux mariage à une femme qui ne te coiffe point du chapeau de Vulcain. Connais-tu ce couvre-chef ? Puis, prêchant, car celle, dit-il, qui donne des arts sur le marché de mariage, laisse après aux autres pour rien toute la marchandise. Sur ce, la fillette, voulant feindre l'assurance, dit « Voit-on tout cela dans les sachets prophétiques ?»« On y voit aussi une clé, » lui dit tout bas à l'oreille Eulenspiegel. Mais le jeune gars s'en était allé avec la clé. Soudain, Eulenspiegel aperçut un voleur détachant d'un étal de charcutier un saucisson d'une aune et le mettant sous son manteau. Mais le marchand ne le vit pas. Le voleur, tout joyeux, vint à Eulenspiegel et lui dit « Comment tu l'as, prophète de malheur ?»« Un des sachets, où tu verras que tu seras pendu pour avoir trop aimé les saucisses, » répondait Eulenspiegel. À ce propos, le voleur s'enfuit prestement, tandis que le marchand volé criait « Au larron, suce au larron !» Mais il était trop tard. Pendant qu'Eulenspiegel parlait, les deux riches juifs, qui avaient écouté avec attention, s'approchèrent de lui et lui dirent « Que vends-tu là, flamand ?»« Des sachets, » répondit Eulenspiegel. « Et que voit-on » demandèrent-ils, « au moyen de tes graines prophétiques ?»« Des événements futurs quand on les suce, » répondit Eulenspiegel. Les deux juifs se concertèrent, et le plus âgé dit à l'autre, « Verrions-nous ainsi quand notre Messie viendra ? Ce serait pour nous une grande consolation. Allez, achetons un de ces sachets. Combien les vends-tu » dirent-ils. « 50 florins, » répondit Eulenspiegel. « Si vous ne voulez pas les payer, troussez votre bagage. Celui qui n'achète pas le champ doit laisser le fumier où il est. » Voyant Eulenspiegel si décidé, ils lui comptèrent son argent, emportèrent l'un des sachets et s'enfuirent en leur lieu d'assemblée, où bientôt accoururent en foule tous les juifs, sachant que l'un des deux vieux avait acheté un secret par lequel il pouvait savoir et annoncer la venue du Messie. Connaissant le fait, ils voulurent sucer sans payer au sachet prophétique. Mais le plus vieux qu'il avait acheté, se nommait Jéhu, prétendit le faire seul. « Fils d'Israël, dit-il en tenant en main le sachet, les chrétiens se moquent de nous. On nous chasse d'entre les hommes et l'on crie après nous comme après les larrons. Les Philistins veulent nous abaisser plus bas que la terre. Ils nous crachent au visage, car Dieu a défendu nos arcs et a secoué le frein devant nous. Faudra-t-il longtemps encore, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que le mal nous arrive lorsque nous attendons le bien, et quand nous espérons la clarté et que les ténèbres viennent ? Paraîtras-tu bientôt sur la terre, divin Messie ? Quand les chrétiens se cacheront-ils dans les cavernes et dans les trous de la terre, à cause de la frayeur qu'ils auront de toi et de ta gloire magnifique, lorsque tu te lèveras pour les châtier ? et les Juifs de s'exclamer « Viens, Messie, suce Jésus !» Jésus suça, et rendant sa gorge, s'exclama piteusement « Oh, je vous le dis en vérité, ceci n'est que du brenne, et le pèlerin de Flandre est à l'aron !» Tous les Juifs alors se précipitant, ouvrirent le sachet, virent ce qu'il contenait, et allèrent en grande rage à la foire pour y trouver Eulenspiegel, qui ne les avait pas attendus. Un homme de dame, ne pouvant payer à Claès son charbon, lui donna son meilleur meuble, qui était une arbalète avec 12 carreaux bien affilés pour servir de projectile. Aux heures où l'ouvrage chômait, Claès tirait de l'arbalète, et plus d'un lièvre fut tué par lui et réduit en fricassé pour avoir trop aimé les choux. Claès alors mangeait goulûment, et Sotkin disait, en regardant la grande route déserte, « Othil, mon fils, ne sens-tu point le parfum des sauces ? Oh, il a faim maintenant, sans doute, et toute songeuse, elle eût voulu lui garder sa part du festin. »« Oh, s'il a faim, disait Claes, c'est de sa faute qu'il revienne, il mangera comme nous. » Claes avait des pigeons. Il aimait de plus à entendre chanter et pépiller autour de lui les fauvettes, chardonneurs et moineaux et autres oiseaux chanteurs et babillards. Aussi tirait-il volontiers les buses et les éperviers royaux mangeurs de pouponnaires. Or, une fois qu'il mesurait du charbon dans la cour, Sotkin lui montra un grand oiseau planant en l'air au-dessus du colombier. Claes prit sur l'arbalète et dit « Que le diable sauve son épervialité !» Ayant armé son arbalète, il se tint dans la cour en suivant tous les mouvements de l'oiseau afin de ne pas le manquer. La clarté du ciel était entre jour et nuit. Claes ne pouvait distinguer qu'un point noir. Il lâcha le carreau et vit tomber dans la cour une cigogne. Bon, Claes en fut bien mari, mais Sotkin le fut davantage et s'écria « Méchant, mais tu as tué l'oiseau de Dieu !» Puis elle prit la cigogne, vit qu'elle n'était blessée qu'à l'aile, alla quérir du baume et disait tout en lui vêtissant sa plaie « Cigogne, mamie, il n'est habile à toi que l'on aime de planer dans le ciel comme l'épervier que l'aurait. Aussi les flèches populaires vont-elles à mauvaise adresse ? As-tu mal à ta pauvre aile, cigogne, qui te laisse faire si patiemment, sachant que nos mains sont des mains amies ?» Quand la cigogne fut guérie, elle eut à manger tout ce qu'elle voulut. Mais elle mangeait de préférence le poisson que Claes allait pêcher pour elle dans le canal. Et chaque fois que l'oiseau de Dieu le voyait venir, il ouvrait son grand bec. Il suivait Claes comme un chien, mais restait plus volontiers dans la cuisine, se chauffant au feu l'estomac et frappant du bec sur le ventre de Sotkin, préparant le dîner, comme pour lui dire « N'y a-t-il rien pour moi ?» Et il était plaisant de voir par la chaumière, vaquer sur ses longues pattes, cette grave messagère de bonheur. Cependant, les mauvais jours étaient revenus. Claes travaillait seul à la terre, tristement, car il n'y avait point de besogne pour deux. Sotkin demeurait seul dans la chaumière, préparant de toute façon les fèves, leur repas journalier, afin d'égayer l'appétit de son homme. Et elle chantait et riait afin qu'il ne souffrît point de la voir dolente. La cigogne se tenait près d'elle, sur une patte et le bec dans les plumes. Un homme à cheval s'arrêta devant la chaumière. Il était tout de noir vêtu, bien maigre et avait l'air grandement triste. Y a-t-il quelqu'un séant ? Demanda-t-il. Dieu bénisse votre mélancolie, répondit Sutkin. Mais suis-je un fantôme pour que, me voyant ici, vous me demandiez s'il y a quelqu'un séant ? Où est ton père ? Demanda le cavalier. Si mon père s'appelle Claës, il est là-bas, répondit Sutkin. Et tu le vois, semant le blé. Le cavalier s'en fut, et Sutkin, aussi toute dolente, car il lui fallait aller pour la sixième fois chercher sans le payer du pain chez le boulanger. Quand elle en revint les mains vides, elle fut ébahie de voir revenir au logis Claës triomphant et glorieux, sur le cheval de l'homme vêtu de noir, lequel cheminait à pied à côté de lui en tenant la bride. Claës appuyait d'une main sur sa cuisse fièrement un sac de cuir qui paraissait bien rempli. En descendant de cheval, il embrassa l'homme, le battit joyeusement, puis, secouant le sac, il s'écria « Vive mon frère Jos, le bon ermite ! Dieu le tienne en joie, en graisse, en liesse, en santé ! Oh, c'est le Jos de bénédiction, le Jos d'abondance, le Jos des soupes grasses ! La cigogne n'a point menti !» Et il posa le sac sur la table. Sur ce, Sutkin dit lamentablement, « Mon homme, nous ne mangerons pas aujourd'hui, le boulanger m'a refusé du pain. »« Du pain ?» dit Claës en ouvrant le sac et faisant couler sur la table un ruisseau d'or. « Du pain ? Mais voilà, du pain, du beurre, de la viande, du vin, de la bière. Voilà des jambons, os à moelle, pâté de hérons, ortolans, poularde. Castrolin comme chez les hauts seigneurs. Voilà de la bière en tonne et du vin en baril. Bien fou sera le boulanger qui nous refusera du pain. Nous n'achèterons plus rien chez lui. » Mais mon homme, dit Sutkin ébahi. Or ça, oyez, dit Claës, et soyez joyeuse. Kathleen, au lieu d'achever dans le marquisat d'Anvers, son terme de bannissement est allé, sous la conduite de Nell, jusqu'à Maybor pédestrement. Alors là, Nell a dit à mon frère Jos que nous vivons souvent de misère, nonobstant nos durs labeurs. Selon ce que ce bonhomme messager m'a dit tantôt, et Claës montra le cavalier vêtu de noir, Jos a quitté la sainte religion romaine pour s'adonner à l'hérésie de Luther. L'homme vêtu de noir répondit « Ceux-là sont hérétiques qui suivent le culte de la grande prostituée, car le pape est prévaricateur et vendeur de choses saintes. »« Oh, dit Sutkin, ne parlez pas si haut, monsieur. Vous nous feriez brûler terre tous. » »« Donc, dit Claës, Jos a dit à ce bonhomme messager que puisqu'il allait combattre dans les troupes de Frédéric de Saxe, il lui amenait 50 hommes d'armes bien équipés. Il n'avait pas besoin, alors, en guerre, de tant d'argent pour le laisser en la malheur à quelque vaurien de Landsknecht. Donc, a-t-il dit, porte à mon frère Claës, avec mes bénédictions, ces 700 florins carolus d'or. Dis-lui qu'il vive dans le bien et songe au salut de son âme. Oui, dit le cavalier, il en est temps, car Dieu rendra à l'homme selon ses œuvres et traitera chacun selon le mérite de sa vie. Monsieur, dit Claës, il ne sera pas défendu dans l'entretemps de me réjouir de la bonne nouvelle. Daignez rester séant. Nous allons pour la fêter manger de belles tripes, force carbonade, un jambonneau, que j'ai vu tantôt si rebondi et appétissant chez le charcutier, qui m'a fait sortir les dents longues d'un pied hors la gueule. Là, se dit l'homme, les insensés se réjouissent, tandis que les yeux de Dieu sont sur leur voie. Or ça, messager, dit Claës, Veux-tu ou non manger et boire avec nous ? L'homme répondit : Il sera temps pour les fidèles de livrer leurs âmes aux joies terrestres lorsque sera tombée la grande Babylone. Soetkin et Claës se signant, il voulut partir. Claës lui dit : Puisqu'il te plaît de t'en aller ainsi mal choyé, donne à mon frère Jas le baiser de paix et veille sur lui dans la bataille. Je le ferai, dit l'homme. Et il s'en fut, tandis que Soetkin allait chercher de quoi fêter la fortune propice. La cigogne eut ce jour-là à souper deux goujons et une tête de cabillaud. La nouvelle se répandit bientôt à Dame que le pauvre Claës était, par le fait de son frère Jos, devenu Claës le riche, et le doyen disait que Kathleen avait sans doute jeté un sort sur Jos, puisque Claës avait reçu de lui une somme d'argent très grosse sans doute, et n'avait pas donné la moindre robe à Notre-Dame. Claës et Soetkin furent heureux, Claës travaillant au champ ou vendant son charbon, et Soetkin se montrant au logis, vaillante ménagère. Mais Soetkin, toujours dolente, cherchait sans cesse des yeux sur les chemins son fils Eulenspiegel. Et tous trois goûtèrent le bonheur qui leur venait de Dieu, en attendant ce qui leur devait venir des hommes. L'empereur Charles reçut ce jour-là d'Angleterre une lettre dans laquelle son fils lui disait « Monsieur et père, il me déplaît de devoir vivre en ce pays où pullulent comme puces chenilles et sauterelles les maudits hérétiques. Le feu et le glaive ne seraient de trop pour les ôter du tronc de l'arbre vivifiant qui est notre mère sainte Église. » Comme si ce n'était pas assez pour moi de ce chagrin, encore faut-il qu'on ne me regarde point comme un roi, mais comme le mari de leur reine n'ayant sans elle aucune autorité. Ils se gaussent de moi, disant de méchants pamphlets, dont nul ne peut trouver les auteurs ni imprimeurs, que le pape me paie pour troubler et gâter le royaume par pendaisons et brûlements impies, et quand je veux lever sur eux quelque urgente contribution, car ils me laissent souvent sans argent par malice. Ils me répondent en de méchants pasquins que je n'ai qu'à en demander à Satan pour qui je travaille. Ceux du Parlement s'excusent et font le gros dos de peur que je ne morde, mais ils n'accordent rien. Et cependant, les murs de Londres sont couverts de pasquins, me représentant comme un parricide prêt à frapper votre majesté pour hériter d'elle. Mais vous savez, mon seigneur et père, que nonobstant toute ambition et fierté légitime, je souhaite à votre majesté de longs et glorieux jours de règne. Ils répandent aussi en ville un dessin gravé sur cuivre, trop habilement, où l'on me voit faisant jouer du clavecin par les pattes à des chats enfermés dans la boîte de l'instrument et dont la queue sort par des trous ronds où elle est fixée par des tiges en fer. Un homme, qui est moi, leur brûle la gueule avec un fer ardent et leur fait ainsi frapper des pattes sur les touches et miauler furieusement. Oh, j'y suis représenté si laid que je ne m'y veux regarder. Et il me représente riant. Or, vous savez, monsieur et père, s'il m'arriva de prendre en aucune occasion ce profane plaisir. Bon, j'essayais sans doute de me distraire en faisant miauler ces chats, mais je ne ris point. Ils me font un crime en leur langage de rebelle de ce qu'ils nomment la nouvelleté et cruauté de ce clavecin, quoique les animaux n'aient point d'âme et que tous hommes, et notamment toute personne royale, puissent s'en servir jusqu'à la mort pour leur délassement. Mais en ce pays d'Angleterre, ils sont si assotés d'animaux qu'ils les traitent mieux que leurs serviteurs. Les écuries et chenilles sont ici des palais, et il est des seigneurs qui dorment avec leur cheval sur la même litière. Et de plus, ma noble femme et reine est stérile. Ils disent par sanglant affront que j'en suis cause, et non elle, qui est au demeurant jalouse, farouche et gloute d'amour excessivement. Monsieur et père, je prie tous les jours mon Seigneur Dieu qu'il mette en sa grâce, espérant un autre trône, fût-ce chez le Turc, en attendant celui auquel m'appelle l'honneur d'être le fils de votre très glorieuse et très victorieuse majesté. Signé Flé. L'empereur répondit à cette lettre. Monsieur et fils, vos ennuis sont grands, je le conteste, mais tâchez d'endurer sans fâcherie l'attente d'une plus brillante couronne. J'ai déjà annoncé à plusieurs le dessein que j'ai de me retirer des Pays-Bas et de mes autres dominations, car je sais que, vieux et goûteux comme je le viens, je ne pourrais pas bien résister à Henri de France, deuxième du nom, car fortune aime les jeunes gens. Songez aussi que, maître d'Angleterre, vous blessez par votre puissance la France, votre ennemie. Je fus vilainement battu devant Metz et y perdis 40 000 hommes. Je dus fuir devant celui de Saxe. Si Dieu ne me remet pas par un coup de sa bonne et divine volonté en ma prime force et vigueur, je suis d'avis, messieurs et fils, de quitter mes royaumes et de vous les laisser. Ayez donc patience. Et faites dans l'entretemps tout devoir contre les hérétiques, n'en épargnant aucun, homme, femme, fille ni enfant, car la vie m'est venue non sans grande douleur pour moi, que madame la reine leur voulut souvent faire grâce. Votre père affectionné, signé Charles. Ayant longtemps marché, Eulenspiegel eut les pieds en sang et rencontra en l'évêché de Mayence un chariot de pèlerins qui le mena jusqu'à Rome. Quand il entra dans la ville et descendit de son chariot, il avisa sur le seuil d'une porte d'auberge une mignonne commère qui sourit en le voyant la regarder. Augurant bien de cette belle humeur, « Hôtesse, dit-il, veux-tu donner asile aux pèlerins pèlerinants, car je suis arrivé à terme et vais accoucher de la rémission de mes péchés. Oh, nous donnons asile à tous ceux qui nous payent. Ben, j'ai 100 ducats dans mon escarcelle, répondit Eulenspiegel, qui n'en avait qu'un, et je veux avec toi dépenser le premier en buvant une bouteille de vin, vieux vin romain. Oh, le vin est pas cher en ces lieux saints, répondit-elle. Entre et bois pour un seul d'eau. Ils burent ensemble si longtemps et vidèrent en menu propos tant de flacons que force fut à l'hôtesse de dire à sa servante de donner à boire au chaland à sa place, tandis qu'elle et Eulenspiegel se retiraient en une arrière-salle en marbre et froide comme l'hiver. Penchant la tête sur son épaule, elle lui demanda qui il était. Eulenspiegel répondit « Je suis sire de Geerland, comte de Gaveriten, baron de Tustendil, et j'ai à dame qui est mon lieu de naissance 25 bonniers de clair de lune. » « Quelle est cette terre ?» demanda l'hôtesse buvant au hanap d'Eulenspiegel. C'est, dit-il, une terre où l'on sème la graine d'illusions, d'espérances folles et de promesses en l'air. Mais tu ne naquis point au clair de lune, douce hôtesse, à la peau ambrée, aux yeux brillants comme des perles. C'est couleur de soleil que l'or brunit de ses cheveux. Ce fut Vénus, en jalousie, qui te fit tes épaules charnues, tes seins bondissants, tes bras ronds, tes mains mignonnes. Souperons-nous ensemble ce soir ? « Beau pèlerin de Flandre, dit-elle, pourquoi viens-tu ici ?»« Pour parler au pape. » répondit Eulenspiegel. « Là, se dit-elle, joignant les mains, parler au pape, moi, qui suis de ce pays, je ne l'ai jamais pu faire. »« Je le ferai, » dit Eulenspiegel. « Mais, dit-elle, sais-tu où il va, comme il est, quelles sont ses coutumes et façons de vivre ?»« Oh, m'a dit en chemin, » répondit Eulenspiegel, « qu'il annonce Jules IIIe, qu'il est paillard et dissolu, bon causeur et subtil à la réplique. Oh, on m'a dit aussi qu'il avait pris en amitié extraordinaire un petit bonhomme mendiant, noir, crotté et farouche, demandant l'aumône avec un singe, et qu'à son avènement au trône pontifical, il l'a fait cardinal du Mont, et qu'il est malade quand il passe un jour sans le voir. Bois, dit-elle, et ne parle point si haut. On dit aussi, poursuivit Eulenspiegel, qu'il jura comme un soudard, al dispeito di Dio, potta di Dio, un jour qu'il ne trouva point à souper un pan froid qui s'était fait garder, disant, « Moi, vicaire Dieu, je puis bien jurer pour un pan, puisque mon maître s'est fâché pour une pomme. Tu vois, mignonne, que je connais le pape et sais qui il est. » « Là, se dit-elle, mais n'en parle point à d'autres. Mais tu ne le verras point toutefois. »« Je lui parlerai, » dit Eulenspiegel. « Ah, si tu le fais, je te donne 100 florins. »« Ah, je les ai gagnés, » dit Eulenspiegel. Le lendemain, quoiqu'il eut les jambes fatiguées, il courut la ville et sut que le pape dirait la messe ce jour-là à Saint-Jean-de-Latran. Eulenspiegel y alla, et se plaça aussi près et en vue du pape qu'il le put, et chaque fois que le pape élevait le calice ou l'hostie, Eulenspiegel tournait le dos à l'autel. Il y avait près du pape un cardinal desservant brun de face malicieux et replet, qui, portant un singe sur son épaule, donnait le sacrement au peuple avec force gestes paillards. Il fit remarquer le fait d'Eulenspiegel au pape, qui, dès la messe finie, envoya 4 fameux soudards, tels qu'on les connaît bien en ces pays guerriers, s'emparer du pèlerin. « Quelle est ta foi ?» lui demanda le pape. « Très Saint-Père, répondit Eulenspiegel, j'ai la même foi que celle de mon hôtesse. » Le pape fit venir la commère. « Que crois-tu ? » lui dit-il. « Ce que croit votre sainteté ? » répondit-elle. « Et moi, pareillement, » dit Eulenspiegel. Le pape lui demanda pourquoi il avait tourné le dos au Saint-Sacrement. « Mais je me sentais indigne de le regarder en face, » répondit Eulenspiegel. « Tu es pèlerin ?» lui dit le pape. « Oui, dit-il, et je viens de Flandre demander la rémission de mes péchés. » Le pape le bénit, et Eulenspiegel s'enfuit avec l'hôtesse, qui lui conta 100 florins. Ainsi lesté, il quitta Rome pour s'en retourner au pays de Flandre. Mais il dut payer 7 ducats, son pardon, écrit sur parchemin. En ce temps-là, 2 frères prémontrés vinrent à Dames vendre des indulgences. Ils étaient vêtus, par-dessus leur accoutrement monacal, d'une belle chemise garnie de dentelles. Se tenant à la porte de l'église, quand le temps était clair, et sous le porche, quand le temps était pluvieux, ils affichèrent leur tarif, dans lequel ils donnaient pour 6 liards, pour 1 patard, 1/2 livre parisis, pour 7, pour 12 florins, carolus, 100, 200, 300, 400 ans d'indulgence, et suivant les prix, indulgence demi-plénière ou plénière tout à fait, et le pardon des crimes les plus énormes, voire celui de désirer violer Madame la Vierge. Celui-là coûtait 17 florins. Il délivrait aux chalands qui les payaient de petits morceaux de parchemin où était écrit le chiffre des années d'indulgence. Au-dessous se lisait cette inscription. Qui ne veut être étuvé, rôt ou fracassé, en purgatoire pour 1000 ans, en enfer brûlant toujours, qu'il achète les indulgences, grâces et miséricordes, pour un peu d'argent, Dieu le lui rendra. Et il leur venait des acheteurs de 10 lieues à la ronde. L'un des bons frères prêchait souvent au peuple. Il avait la treuille fleurie et portait ses 3 mantons et sa bedaine sans embarras. Malheureux, disait-il, fixant les yeux sur l'un ou l'autre de ses auditeurs. Malheureux, te voici en enfer. Le feu te brûle cruellement. On te fait bouillir dans le chaudron plein d'huile où l'on prépare les oléocultes d'Astarté. Tu n'es qu'un boudin sur la poêle de Lucifer, un gigot sur celle de Gilgiroth, le grand diable, car on te coupe en morceaux préalablement. Vois ce grand pécheur qui méprisa les indulgences. Vois ce plat de frigadelle. C'est lui, c'est lui, c'est son corps impie, son corps damné, ainsi réduit. Et quelle sauce, oh, soufre, pois et goudron. Et tous ces pauvres pécheurs sont ainsi mangés pour en être continuellement à la douleur. Et c'est là que sont vraiment les larmes et les grincements de dents. Ayez pitié, Dieu de miséricorde. Oui, te voici en enfer, pauvre damné, souffrant tous ces maux. Que l'on donne pour toi un denier, tu ressens tout soudain du soulagement à la main droite. Que l'on en donne encore un demi, et voilà tes 2 mains hors du feu. Mais le reste du corps, 1 florin, et voici que tombe la rosée de l'indulgence. Oh, fraîcheur délicieuse! Et pendant 10 jours, 100 jours, 1000 ans, suivant que l'on paye, plus de rôles, d'oléicoudjé, ni de fricassé. Et si ce n'est pour toi, pécheur, n'y a-t-il point là, dans les secrètes profondeurs du feu, de pauvres âmes, tes parents, tu l'épouses aimée, quelques mignonnes fillettes avec laquelle tu pêchas volontiers? Et ce disant, le moine donnait un coup de coude au frère qui se trouvait à côté de lui avec un bassin d'argent. Et le frère, baissant les yeux à ce signe, agitait son bassin onctueusement pour appeler la monnaie. N'as-tu pas, poursuivait le moine, n'as-tu pas dans cet horrible feu un fils, une fille, quelque enfant te l'a aimé? Il crie, il pleure, il t'appelle. Pourras-tu rester sourd à ces voix lamentables? Tu ne le saurais. Ton cœur de glace va se fondre. Mais c'est un carolus que cela te coûtera. Et regarde, au son de ce carolus sur ce vil métal, le moine compagnon secoua encore son bassin, un vide se fait dans le feu, et la pauvre âme monte jusqu'à la bouche de quelque volcan. Ah, la voici dans l'air frais, dans l'air libre. Où sont les douleurs du feu? La mer est proche, elle s'y plonge, elle nage sur le dos, sur le ventre, sur les vagues et au-dessous d'elle. Écoute comme elle crie de joie, vois comme elle se roule dans l'eau. Les anges la regardent et sont heureux. Ils l'attendent, mais elle n'en a pas assez encore, elle voudrait devenir poisson. Elle ne sait pas qu'il y a là-haut des bains suaves, pleins de parfums, roulent de grands morceaux de sucre candi, blanc et frais comme glace. Paraît un requin, elle ne le redoute point. Elle monte sur son dos, mais il ne la sent pas. Elle veut aller avec lui dans les profondeurs de la mer. Elle y va saluer les anges des eaux, qui mangent de la water zoe dans des chaudrons de corail, et des huîtres fraîches sur des assiettes de nacre. Et comme elle est bien reçue, fêtée, choyée, les anges l'appellent toujours d'en haut. Enfin, bien rafraîchie, heureuse, la vois-tu s'élever, chanter comme une alouette, jusque plus au ciel où Dieu trône dans sa gloire. Elle y trouve tous ses terrestres parents et amis, sauf ceux qui, ayant béni des indulgences et de notre Mère Sainte Église, brûlent au parfum des enfers. Et ainsi toujours, 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 jusque dans les siècles des siècles, dans la toute puissante éternité. Mais l'autre âme, elle, est près de Dieu, se rafraîchissant dans les bains suaves et croquant le sucre candi. Achetez des indulgences, mes frères. On en donne pour des crusades, pour des florins d'or, pour des souverains d'Angleterre. La monnaie de billions n'est point rejetée. Achetez, achetez. C'est la sainte boutique, il y en a pour les pauvres et pour les riches. Mais par grand malheur, on ne peut faire crédit, mes frères, car acheter ne pas payer comptant est un crime aux yeux du Seigneur. Le frère, qui ne prêchait point, agitait son plateau. Les florins, crusats, ducatons, patards, sols et deniers y tombaient dru comme grêle. Claës, se voyant riche, paya un florin pour 10 000 ans d'indulgence. Les moines lui baillèrent en échange un morceau de parchemin. Bientôt, voyant qu'il ne restait plus à dame que les ladres qui n'eussent pas acheté d'indulgence, ils s'en furent à deux à Heist. Vêtu de son costume de pèlerin et bien absous de ses fautes, Oudenspiegel quitta Rome, marcha toujours devant lui et vint à Bamberg, où sont les meilleurs légumes du monde. Il entra dans une auberge où était une joyeuse hôtesse qui lui dit « Jeune maître, veux-tu manger pour ton argent ?»« Oui, » dit Eulenspiegel, « mais pour quelle somme mange-t-on ici ?» L'hôtesse répondit « On mange à la table des seigneurs pour 6 florins, à la table des bourgeois pour 4 et à la table de la famille pour 2. » « Oh, plus d'argent, mieux pour moi, » répondit Eulenspiegel. Il alla donc s'asseoir à la table des seigneurs. Quand il fut bien repu et eut arrosé son dîner de Rinvin, il dit à l'hôtesse, « Commère, j'ai bien mangé pour mon argent. Donne-moi les 6 florins. » L'hôtesse lui dit, « Te moques-tu de moi, paye ton écho. » Bézine mignonne, lui répondit Eulenspiegel, vous n'avez point un visage de mauvaise débitrice, j'y vois au contraire une bonne foi si grand, tant de loyauté et d'amour du prochain, que vous me paieriez plutôt 18 florins, que de m'en refuser 6 que vous me devez. Oh, les beaux yeux, mais c'est le soleil qui darde sur moi, y faisant pousser l'amoureuse folie plus haut que le chien d'or en un clos abandonné. » L'hôtesse répondit, « Oh, je n'ai que faire de ta folie, ni de ton chien d'or, et paye, va-t'en. » « M'en aller, » dit Eulenspiegel, « et ne plus te voir. Oh, j'aimerais mieux te repasser tout de suite. Bézine, douce Bézine, je n'ai point l'habitude de manger pour 6 florins. » Moi, pauvre petit homme vacant par mont et par vaux, je me suis empiffré et vais bientôt tirer la langue comme un chien au soleil. Daignez me payer, je gagnais bien les 6 florins par le rude labeur de mes mâchoires. Donnez-les-moi, je vous caresserai, baiserai, embrasserai avec une si grande ardeur de reconnaissance que 27 amoureux ne pourraient ensemble suffire à pareille besogne. « Tu parles pour de l'argent, » dit-elle. « Veux-tu que je te mange pour rien, » dit-il. « Non, dit-elle, se défendant contre lui. Ah, soupirait-il, la poursuivant, ta peau est comme de la crème, tes cheveux comme du faisan doré à la broche, tes lèvres comme des cerises, en est-il une plus friande que toi? Il te sied bien, vilain méchant, dit-elle en souriant, de venir encore me réclamer six florins. Sois heureux que je t'ai nourri gratis sans rien te demander. Si tu savais, dit Eulenspiegel, comme il y a encore de la place. Répare, dit l'hôtesse, avant que mon mari ne vienne. Je serai doux créancier, répondit Eulenspiegel. Donne-moi seulement un florin pour la soif future. Tiens, dit-elle, mauvais garçon. Et elle le lui donna. Mais me laisseras-tu revenir ? Lui demanda Eulenspiegel. Veux-tu bien t'en aller ? Dit-elle. Mais bien m'en aller, dit Eulenspiegel. Mais ce serait aller vers toi, mignonne. Mais c'est mal m'en aller que de quitter tes beaux yeux. Si tu daignes me regarder, je mangerai plus que pour un florin tous les jours. « Faudra-t-il un bâton ? » dit-elle. « Prends le mien, » répondit Eulenspiegel. Elle riait, mais il dut partir.